question de parler dans son ensemble, dans une causerie, même un peu longue, de la spiritualité orthodoxe. Ce serait essayer de faire saisir la façon dont toute la foi orthodoxe, dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, trouve expression dans la vie intérieure et dans la piété du peuple chrétien. Aussi, vais-je me borner à un thème unique que je crois particulièrement important parce qu'à notre époque, quoiqu'il soit absolument central au christianisme, il est devenu un problème pour beaucoup en Occident comme dans l'Orient chrétien, pour des raisons très différentes, mais qui ont le même résultat. C'est du Christ lui-même que je voudrais vous parler. Monsieur le pasteur, le maire vient de terminer son allocution en parlant de la résurrection. C'est la résurrection du Seigneur qui est au centre du message chrétien. La foi, c'est-à-dire la certitude que le Christ, mort sur la croix, est réellement ressuscité dans sa chair. L'importance de ce message, quelquefois, échappe aux chrétiens de tendance philosophique de notre temps. Et pourtant, c'est lui qui était au centre absolu, le centre absolu de la foi chrétienne dès l'origine. Il suffit de nous reporter à l'histoire des apôtres, à l'expérience primordiale, centrale des 12, pour en saisir la signification. Je voudrais, avant d'en parler, insister sur un point particulier cependant. D'aucuns, tout en admettant l'importance de la résurrection dans l'expérience apostolique, se demandent comment cette expérience apostolique peut avoir pour nous la même signification centrale. Est-ce qu'il nous suffirait simplement de croire sur parole ce que les apôtres ont dit et de fonder notre foi sur quelque chose de totalement invérifiable? Eh bien, je voudrais insister sur ce fait que de tous les événements de l'histoire du monde, la résurrection du Seigneur appartient à la fois à l'histoire du passé et à la réalité présente. Le Christ, mort sur la croix en un jour déterminé, le Christ, ressuscité de la tombe dans sa chair humaine, glorifié à un jour déterminé, appartient au passé comme un fait historique. Mais le Christ, une fois ressuscité,
la base virale VPS a été mise à jour.
La gloire du Père appartient à l'histoire de chaque jour et de chaque instant, parce que vivant, selon sa promesse, il est avec nous maintenant et à jamais. Et l'expérience chrétienne, de ce point de vue, s'attache essentiellement à l'événement de la résurrection, parce que c'est le seul événement évangélique contrôlable. C'est le seul événement évangélique qui peut faire partie de notre expérience personnelle. Tout le reste, nous le recevons par la tradition écrite ou orale. Le récit de sa crucifixion, les événements divers que nous relate l'Écriture sainte. La résurrection, nous la connaissons personnellement ou bien nous ignorons le fait primordial et essentiel de la vie de l'Église et de la foi chrétienne. Si une affirmation aussi nette, aussi tranchante, vous pose des questions, exige de vous une réponse, exige de vous que vous vous demandiez si vous êtes à l'intérieur de l'expérience chrétienne, tant mieux, parce que nous sommes tous devant le jugement de l'Écriture sainte, de la vérité de Dieu. Mais c'est là l'expérience centrale sans laquelle il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de christianisme, sans laquelle notre foi n'est pas une foi, mais une crédulité. Non pas la certitude des choses invisibles, mais la capacité d'accepter le témoignage d'autres, un témoignage invérifiable, un témoignage qui n'est relaté à rien qu'au fait que quelqu'un a dit quelque chose qui nous semble incroyable et que pourtant, pour des raisons aussi incroyables, nous sommes prêts à accepter. Tournons-nous maintenant vers cet événement de la résurrection et demandons-nous pourquoi il est tellement central. Pourquoi saint Paul a pu dire que si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus misérables des hommes? Parce que notre foi est vaine. En effet, si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre foi, toute notre conviction, notre vie intérieure, notre espérance, tout est fondé sur un mensonge. Tout est fondé sur quelque chose qui n'a jamais eu lieu et qui ne peut servir de fondement à rien. Pensons maintenant à saint Paul et aux douze séparément. Saint Paul, vous le savez, hébreu parmi les hébreux, élève des plus grands maîtres, un homme d'une foi ardente, versé dans les Écritures, passionnément fidèle à la tradition de ses pères. Saint Paul qui a pu rencontrer le Christ, saint Paul qui a certainement été en contact de ses disciples, saint Paul qui n'a certainement rien laissé échapper de ce qui était nécessaire pour connaître, comprendre et juger ce prophète nouveau, confrontant tout ce qu'il savait de lui avec tout ce qu'il avait vu et compris dans l'Écriture sainte et dans le témoignage de la communauté hébraïque, a rejeté le Christ. Comparé à ce qu'il a cru être le Messie venant, il n'a pas pu reconnaître le Messie une fois venu. C'est avec l'intention de détruire les premiers germes de la foi chrétienne qu'il a quitté Jérusalem et s'est dirigé sur Damas. Et c'est sur cette route, la route du persécuteur, qu'il s'est trouvé face à face avec le Christ ressuscité. Et c'est cette rencontre avec le Christ ressuscité qui a donné signification et valeur absolue à tout ce qu'il avait nié jusqu'alors. Ayant rencontré le Christ ressuscité, il a su dès l'abord et immédiatement que celui qui était mort sur la croix et dans lequel il refusait de reconnaître le Messie était réellement celui qu'attendait Israël. parce que le Christ était ressuscité, vivant devant lui après une mort réelle, il a pu reconnaître que tout ce que le Christ avait dit de lui-même et tout ce que l'Écriture avait dit de mystérieux, d'irrecevable sur le Messie venant, était vrai et s'appliquait aux prophètes de Galilée. Et c'est à la lumière de cette résurrection que la foi dans l'Évangile total est devenue possible pour lui et pour tant d'autres. Ce n'est qu'à cause de la résurrection que nous pouvons reconnaître le Fils de Dieu dans celui qui meurt sur la croix et que nous pouvons recevoir avec conviction et avec certitude tout le récit évangélique, à commencer par l'Annonciation, la naissance virginale, l'enseignement, les miracles et ce double témoignage, le témoignage du Christ sur lui-même, corroboré par le témoignage de Dieu en faveur de son Christ. Ceci suffirait peut-être à nous faire saisir un des aspects essentiel de la résurrection et son importance. Mais si nous nous tournons maintenant vers les 12, nous voyons que la résurrection a une portée et une amplitude plus grande, peut-être, s'il est possible qu'elle fût plus grande. La mort du Christ sur la croix a été quelque chose de bien plus grand et de bien plus essentiel dans l'expérience des apôtres que la mort d'un chef, d'un ami, d'un maître et d'un guide. Ils ont fait autre chose que déplorer la perte de quelqu'un qui leur était cher ou la défaite d'un chef dont ils attendaient la victoire. Si nous lisons l'Évangile attentivement, du point de vue des relations qui existent entre les apôtres et le Seigneur, nous voyons combien, peu à peu, il se produit une identification entre le Maître et ses disciples. Venus à lui, les uns dans un acte de foi, dans le miracle de la foi, peut-on dire, d'autres, sceptiquement, que peut-on attendre de quelqu'un qui vient de Nazareth, ayant passé par toutes les vicissitudes de l'hésitation, conquis totalement, non seulement à ce que le Christ prêchait, mais à sa personne. Nous les voyons avant la crucifixion, former un groupe que l'on peut dire vraiment séparé du monde, élu dans le sens de choisi et retranché. Le Christ est devenu un centre absolu de vie. Quand le Christ s'adresse à ses disciples et leur demande si eux aussi veulent le quitter, Pierre lui dit « Où irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as ces paroles, cette parole créatrice, cette parole vivifiante qui transmet, qui donne la vie éternelle, qui fait participer à la vie éternelle. Il y a là un groupe humain centré sur quelqu'un qui est la vie éternelle qui s'est fait présente dans un monde éphémère, transitoire, dans le monde dans lequel le péché humain a introduit la mort et la corruption. Et ce groupe humain ne peut plus exister en dehors de cette relation au Christ. non pas parce qu'ils sont liés à lui d'affection, d'amitié, de fidélité, mais parce qu'en lui, ils ont l'expérience de la vie éternelle déjà venue d'une dimension nouvelle qui n'est pas une dimension de relation, mais une dimension ontologique, une dimension de substance. Ce n'est pas une vie plus grande, plus pleine, plus riche, plus belle. C'est une autre vie que le Christ leur a apportée. Sur ce point, nous reviendrons dans un instant. Et lorsque le Christ meurt sur la croix, rejeté, retranché par ceux qui sont restés au dehors de ce cercle du mystère de la charité divine, présente, incarnée, active, transfigurante. Il ne s'agit pas seulement de la mort d'un ami ou d'un chef ou d'un maître. Il s'agit d'une tragédie autrement grande. Si le Christ, avec tout ce qu'il signifiait, a pu mourir sur la croix, cela signifie que la haine humaine a été plus forte que l'amour divin. La haine humaine a su écarter l'amour divin, le retrancher de la cité des hommes, le rejeter sur le calvaire et le tuer. Et avec cette mort de l'amour divin, ce rejet est mort aussi la présence de la vie éternelle au milieu des hommes. Il ne reste plus de vie éternelle, elle a été écartée. L'amour divin qui s'était présenté d'une façon à la fois accusatrice et pleine d'espérance à l'homme, cet amour divin est rejeté, retranché. Et que reste-t-il aux hommes du dehors? Ce qu'ils avaient toujours eu, le crépuscule dans lequel nous nous débattons en dehors du Christ, un crépuscule fait d'un peu d'affection, d'un peu de haine, de beaucoup d'indifférence, un crépuscule où les hommes sont étrangers les uns aux autres, où ils sont dans des relations tellement friables, tenus les uns aux autres par des fils qui se rompent à chaque instant, par des adhérences qui se dégagent et se dissolvent. Mais à ceux du dedans, au Christ, à ceux qui étaient unis au Christ, qui avaient l'expérience de la présence du Dieu vivant au milieu des hommes, ce qui restait, c'était la possibilité de ne plus vivre, mais de durer, de continuer à exister. Mais maintenant qu'ils avaient connu la vie éternelle, la vie éphémère du temps qui se termine dans la corruption et la mort n'était qu'une attente de la défaite finale, était simplement un atermoiement avant un retour à la poussière. Ce ne pouvait plus être appelé la vie, c'était l'avant-mort. Si bien que, lorsque l'Écriture sainte, dans des images ou des phrases directes, nous fait sentir que dans la mort du Christ, nous sommes tous morts, dans la mesure où nous sommes profondément identifiés et liés à lui, et que dans sa résurrection, nous revenons à la vie avec lui, l'Écriture nous parle de quelque chose de très précis, de très réel. Il y a là quelque chose que nous ne pouvons pas saisir avec toute l'obscurité tragique avec laquelle les apôtres l'ont perçu. Et pour une raison tellement simple et évidente, c'est que au Vendredi Saint, quelque effort d'imagination que nous fassions pour ne voir que la tragédie, nous savons pertinemment qu'avant que le troisième jour ne soit terminé, nous chanterons la résurrection. Nous ne pouvons pas faire abstraction de la connaissance que nous avons de la résurrection du Christ. Non seulement parce que d'année en année, nous en avons eu l'expérience et que nous ne pouvons pas artificiellement l'oublier, mais parce que, en tant que membre du corps du Christ, en tant que chrétien, intégré à ce mystère du Christ total qu'est l'Église, nous avons en nous cette vie éternelle qui témoigne du fait que les ténèbres du Vendredi Saint sont déjà vaincues. En nous, elles sont vaincues. En nous, la lumière est déjà présente. La vie est déjà présente. La victoire est déjà en partie gagnée. Et il nous est impossible de ne rien retenir de la résurrection venante alors que nous sommes plongés dans cette obscurité du Vendredi Saint. Mais pour les apôtres, le Vendredi Saint était le dernier jour de la semaine et le dernier jour de leur vie qu'ils avaient connu. Et le lendemain, le jour qui précédait la résurrection, était aussi obscur et aussi opaque, aussi impénétrable d'obscurité que le Vendredi Saint l'avait été. Et si la résurrection n'était pas intervenue, tous les jours de l'année et tous les jours de leur vie eussent été des jours d'obscurité totale, des jours où Dieu était mort, où Dieu avait été vaincu, où Dieu avait été expulsé définitivement et radicalement de la cité des hommes. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a un instant, de cette unité qui graduellement s'est créée dans l'Évangile entre le Christ et ses disciples, du fait que la vie dont il vivait, c'était sa vie à lui. Qu'en lui ils étaient vivants, qu'en lui ils se mouvaient, qu'en lui et par lui ils voyaient, percevaient et comprenaient, vous saisirez que sa mort n'était non seulement cette obscurité totale et irrémédiable du Vendredi Saint, dernier jour de l'histoire pour eux, mais en même temps, leur mort à eux, parce que la vie avait été retranchée et qu'ils ne pouvaient que durer, mais ils ne pouvaient plus vivre. Vous comprendrez alors pourquoi l'événement de la résurrection pour les apôtres a été un renouvellement si complet, a été un événement si décisif. Lorsque le Christ leur est apparu au troisième jour, toute porte fermée, leur première pensée a été qu'ils étaient hallucinés, que c'était un mirage. Et le Christ insiste en cette occasion-là, comme dans toutes les occasions relatées dans l'Évangile de ses apparitions après la résurrection, sur le fait qu'il n'est pas un mirage, qu'il n'est pas une illusion, qu'il est une présence corporelle et réelle. Il partage avec eux de la nourriture. Et nous comprenons aussi pourquoi les premières paroles du Christ sont des paroles de paix. Paix à vous. Il leur apporte une paix qui leur avait été enlevée par sa mort, qui était leur mort. Il les dégage du désarroi définitif, irrémédiable dans lequel ils étaient plongés, dans cette situation crépusculaire où ils ne pouvaient plus reconnaître la vie dans cette vie transitoire d'où l'éternité avait été chassée. Et il leur donne cette paix qu'il avait promise, cette paix que lui seul peut donner, cette paix qui dépasse toute intelligence. La paix d'une réintégration à la vie, au-delà du doute, au-delà de l'hésitation, dans la certitude de ceux qui sont vivants et qui ne peuvent pas douter de la vie. Il y a là une différence très profonde et que je crois nécessaire de souligner entre cette résurrection métaphysique des apôtres et la résurrection de Lazare. Vous vous souvenez de cette parole souveraine qui a ramené Lazare, mort depuis 4 jours, à la vie? Lazare était physiquement mort. Les apôtres étaient physiquement vivants. Mais la parole du Christ, cet appel qui ramène Lazare dans le monde des vivants sur terre, est un retour à la vie éphémère de la terre. La résurrection opérée sur les apôtres, dans la résurrection même du Christ, et leur réintégration à la vie éternelle, déjà venue victorieusement, la vie du siècle à venir, déjà présente, de par la résurrection du Christ et de par le don de l'Esprit Saint. Ils mourront, ils s'endormiront du sommeil de la terre, mais ils mourront sans crainte. Ils font face à tous les dangers. Aucune souffrance ne sera en mesure de les faire se détourner du Christ. Parce que pour eux, la vie, c'est Christ. Et la mort est un gain. La mort physique, ce sommeil de la terre où ils seront plongés, parce que dégager des finitudes et des limitations de la terre, ces hommes se retrouveront sans limite dans les plénitudes d'une vie qui déferle de Dieu, les remplit et les emporte. Nous comprenons pourquoi ces apôtres, qui étaient si craintifs à d'autres moments, ne craignent plus rien. La vie qu'ils possèdent n'est pas la vie transitoire que l'on peut enlever, dont on peut les priver. C'est la vie éternelle dont rien ni personne ne peut les priver. J'ai dit il y a un instant que c'était là la vie éternelle et la vie du siècle à venir. Et j'ai marquer le fait que l'Esprit Saint était présent et que c'est sa présence qui établissait cette situation du siècle à venir. Eh bien, je voudrais insister sur ce point un instant. Il y a dans l'Écriture sainte 2 récits qui se rapportent au don du Saint-Esprit. La Pentecôte, le récit que nous lisons au livre des Actes, qui revient à la pensée de chacun lorsque l'on pense au don de l'Esprit Saint, mais aussi un autre événement celui du soir de la résurrection, que Mgr Cassien a appelé la Pentecôte joannique, la Pentecôte relatée par saint Jean dans son évangile, au 20e chapitre. Ayant donné la paix à ses apôtres, non seulement ayant souhaité la paix, mais donné réellement par sa présence, le Christ souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Dans ce don de l'Esprit Saint, il y a quelque chose de très différent du récit de la Pentecôte des Actes. À la Pentecôte des Actes, chacun des membres présents de l'Église reçoit l'Esprit Saint sous la forme d'une flamme qui se pose sur lui. Mais les absents doivent le recevoir individuellement, personnellement, dans l'imposition des mains des apôtres. Rappelez-vous le 19e chapitre de ce même livre des Actes. Dans la Pentecôte joannique, l'événement est tout différent. Personne des apôtres ne reçoit personnellement le don de l'Esprit, du Saint-Esprit. Ils le reçoivent ensemble. Et ils le possèdent ensemble. Et ce n'est que dans leur unité qu'ils le possèdent ensemble. Il est la propriété d'aucun d'entre eux. Mais chacun de ceux qui s'agrègent à ce cercle apostolique, à cette église naissante, entre dans le mystère de cet esprit qui possède l'Église et qui en est possédé. Rappelez-vous qu'au soir de la résurrection, Thomas était absent. Et pourtant, il n'y a aucun témoignage qui nous fasse soupçonner qu'il ait eu besoin d'un don personnel de l'Esprit pour se trouver dans la situation du cercle apostolique. Il y appartient et il possède en commun avec les autres ce que tous possèdent dans leur unité. C'est là quelque chose qui correspond peut-être, je crois, au mystère du corps du Christ. Vous vous souvenez que sur les rives du Jourdain, l'Esprit était descendu sur le Christ, s'était reposé en lui. Et maintenant, cette communauté humaine qui est devenue le corps du Christ, une extension dans le temps et l'espace du mystère de la présence divine et de l'incarnation, reçoit le totus Christus, le Christ total, reçoit à son tour cet esprit qui prend habitat dans ce corps, de même qu'il était possédé par le Verbe incarné. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les conséquences du point de vue de l'Église de ce fait. La conséquence première, c'est que ce n'est qu'à l'intérieur de cette unité qu'il est présent, et que si l'on s'en écarte, si l'on renie cette unité, si on cesse d'être un membre de l'Église du Christ, on ne peut emporter avec lui, avec soi, sa part du don du Saint-Esprit. Il reste pleinement à l'intérieur de l'Église. Mais si vous reportez à la tradition ecclésiastique, vous verrez facilement que la présence de l'Esprit-Saint, ce déversement de richesses divines personnelles qui se communique et qui fait de nous des participants à la nature divine, qui nous meut vers cette plénitude que les Grecs appelaient la divinisation, que saint Paul signifie lorsqu'il dit que Dieu sera tout en tous. vous verrez que cette présence de l'Esprit Saint est déjà le début du siècle à venir. Ce sont les arts de ce qui sera la plénitude à venir. À la façon grammaticalement absurde et spirituellement si vraie et si exacte dont notre liturgie l'exprime, donne-nous, Seigneur, de participer aujourd'hui au mystère du siècle à venir. Grammaticalement, c'est impossible, parce que l'on ne peut pas, dans le présent, participer au futur. Et pourtant, c'est vrai, parce que l'Église est présente, mais qu'elle est déjà, selon l'expression si vivante d'une traduction anglaise, l'avant-garde du royaume de Dieu. Elle est déjà la présence de ce qui sera une présence qui manque de plénitude, une présence qui s'accroît et qui décroît selon les circonstances de l'histoire et de la fidélité humaine, mais une présence réelle de ce qui sera manifesté dans la plénitude resplendissante du siècle à venir. Au début de la liturgie, lorsque les saintes espèces ont été préparées, le pain, le vin, lorsque la communauté humaine se trouve là, que le prêtre, le diacre et les fidèles sont à pied d'œuvre, le diacre, se tournant vers le prêtre, lui dit une phrase qui, comme tant de phrases des langues anciennes, est passible de traductions nuancées et diverses, lui dit « Et maintenant, il est temps pour Dieu d'agir. » Tout ce qui était humainement possible est fait. La congrégation est présente. Elle s'est préparée par le jeûne et la prière au mystère de la rencontre du Christ. Le pain et le vin sont là. Tout le monde est prêt à célébrer la Sainte Liturgie. Mais le contenu de la Sainte Liturgie ne peut pas être créé par un effort humain. L'homme ne peut pas faire que ce pain et ce vin deviennent la présence réelle du Christ, quelle que soit notre théorie de cette présence. Seul Dieu peut transformer un élan et de mains ouvertes en une réalité donnée. C'est une descente de l'éternité, c'est une irruption du mystère du siècle à venir dans les cadres de l'histoire et de la réalité humaine présente. Et cela, c'est justement le mystère de cette résurrection du Christ qui, par le don et la puissance du Saint-Esprit, qui fait de nous un corps unique avec lui, s'étend à nous et nous donne la vie éternelle. Et il y a une troisième phrase qui nous conduit à un aspect tout à fait différent du mystère de la résurrection et de la vie du ressuscité en nous et dans l'Église. Il y a une troisième phrase dans ce passage de la Pentecôte johannique. Ayant donné l'Esprit, ayant donné la paix, le Christ s'adresse aux apôtres et leur dit « De même que mon Père m'a envoyé, je vous envoie. » Lorsque cette phrase est répétée à des missionnaires du XXe siècle, elle n'a aucune harmonique tragique. Le missionnaire ira en pays étranger, soutenu par la force de son Église, la puissance de sa patrie, le secours, quelquefois, des forces armées. Il sera entouré d'une sécurité mondaine, d'une sécurité qui appartient au siècle, dans le sens mauvais du mot. Le danger, mais le danger est si faible, c'est un risque. Mais lorsque le Christ a prononcé ces paroles adressées à ses apôtres, il les a prononcées trois phrases après l'instant où le vendredi saint s'est transformé dans le resplendissement de Pâques. Quand ils ont entendu cette parole, « Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé », leur âme était encore toute pleine de la tragédie du calvaire. Quand il leur a dit cela, ce qu'ils ont compris, c'est que ce qui est arrivé il y a 2 jours à leur maître était leur destinée. Et que ce que le Christ leur avait promis, je vous en prie. Et là, nous nous trouvons en face de l'autre aspect de ce mystère à la fois de l'Église, du Christ, dans la lumière de la résurrection. Ils possèdent maintenant la vie éternelle. Il ne leur reste plus qu'à donner leur vie humaine pour que cette vie éternelle s'étende à d'autres. Comme le Christ est mort et comme il a vécu, sans que personne ne lui arrache sa vie, personne ne me prend ma vie, dit-il, je la donne librement, il doit donner. Et cela, c'est un aspect sur lequel je voudrais insister un instant, justement dans ce contexte de la résurrection. Non pas en termes d'opposition de la croix différente de la résurrection, mais de la croix et de la résurrection entrelacées, de la croix que le Christ dépose sur les épaules de ses apôtres parce qu'ils appartiennent déjà au siècle à venir et au peuple des ressuscités. Je voudrais vous donner une image de cet événement de la croix, de la façon dont elle est saisie, vécue dans une vie humaine, une vie particulière, la vie d'une femme de 20 ans. Et je voudrais vous montrer que lorsque nous disons que le Christ est la voie, la vérité et la vie, c'est vrai. Quand nous pensons aux apôtres, nous nous imaginons que c'était des gens, des hommes tellement exceptionnels, si profondément différents de nous, malgré toutes les analogies que nous découvrons en eux, entre eux et nous. Mais reportons-nous à l'époque de la Grande Guerre et de la guerre civile en Russie, à cette époque trouble de lutte étrangère et de guerre civile. Dans une petite ville de province qui vient de passer des mains des uns aux mains des autres, une jeune femme de 22, 23 ans, avec 2 petits-enfants, se trouve prise au piège. Son mari appartient au camp opposé, elle n'a pas su échapper à temps, elle se cache. Elle veut sauver sa vie et celle de ses enfants. Un jour passe dans l'angoisse, puis une nuit, puis un jour encore. Et vers le soir de ce 2e jour, la porte de la masure où elle s'était cachée s'ouvre et une jeune femme entre, une voisine, une femme de son âge. Une femme simple, que rien ne distingue des autres femmes du peuple. Elle lui dit, vous vous appelez de tels noms. Et la mère, dans l'angoisse, dit oui. Vous avez été découverte, lui dit sa voisine. On viendra vous chercher cette nuit pour vous fusiller. Il faut que vous partiez. Et la mère regarde ses enfants et répond, où irai-je? Comment échapper avec ces petits? Ils ne pourraient marcher assez vite, ni assez loin. Et comment ne pas être repérée, une femme avec deux enfants, alors que c'est une femme avec deux enfants que l'on recherche? Et cette voisine, inconnue l'instant d'avant, tout à coup cesse d'être une voisine. Elle devient cette chose tellement grande et impressionnante que l'Évangile appelle mon prochain, le plus proche. Celui qui est tellement proche que personne d'autre n'est aussi proche que lui. Elle devient le prochain de cette mère et lui dit avec un sourire, on ne vous cherchera pas parce que je vais rester ici à votre place. Mais la mère de lui répondre, mais on vous fusillera. Et elle de dire, oui, mais moi je n'ai pas d'enfant. Et vous devez partir. Et la mère sort. Ce n'est pas un récit de simple sacrifice que je veux vous faire. Je voudrais insister sur un certain nombre de points qui lui donnent une valeur et une signification en Christ. Et qui, par la croix, nous amène à la notion de la résurrection et de la vie de celui qui est le plus grand dans ceux qui sont petits. La mère s'en va et cette jeune femme reste. Elle s'appelait Nathalie. Je ne veux pas essayer de m'imaginer ce qui s'est passé dans cette nuit. Je voudrais simplement établir quelques parallèles que je crois pouvoir établir, être en droit d'établir. La nuit venait. Une nuit d'automne, de plus en plus froide, de plus en plus humide, rapide à venir, enveloppante, isolante. Et cette jeune femme, seule, retranchée de tous, qui ne pouvait attendre rien de personne, sauf la mort, fait face à la mort venante. Cette mort, qu'elle n'avait aucune raison de subir. Elle était jeune, elle était vivante, et ce n'est pas elle qu'on venait tuer. Souvenez-vous du jardin des Oliviers. Il y avait là aussi, dans la nuit enveloppante, dans la nuit froide, obscure, à distance de ses plus proches amis qui dormaient, fatigués, tristes. Il y avait un homme jeune aussi, dans la trentaine, qui attendait que la mort vienne, qui attendait qu'on le tue au lieu des autres. Parce qu'il acceptait la mort pour que l'homme, son ami, et chaque homme particulier, vous et moi et toi et elle et eux et nous, pour que chacun soit sauvé de la vie, pour qu'il échappe de cette nuit qu'il le faisait prisonnier. Et nous savons ce que l'Écriture nous relate. Nous savons l'angoisse. Nous savons l'appel au Père. Nous savons les sueurs de sang. Nous savons que nous ne pouvons plus supporter cet isolement devant la mort qui venait. Il est allé voir si quelqu'un de ses disciples ne dormait pas. Et puis, il est revenu seul. Faire face à sa propre mort, qui était celle des autres. Une mort d'emprunt, impossible, absurde. Voilà une première image. Nathalie, dans la même situation, aucune différence. Elle était en Christ. Plus d'une fois, Nathalie a dû s'approcher de cette porte, la regarder et se dire, il suffit de la pousser et je ne suis plus Zoya, je suis de nouveau Nathalie, je ne suis plus condamnée à mort, personne ne me touchera. Mais elle n'est pas sortie. Nous pouvons mesurer ce que cette angoisse et cette terreur peuvent signifier en nous souvenant de la cour de la maison de Caïaphe. Pierre, le roc, Pierre, l'apôtre fort, qui avait dit au Christ que si même tout le monde le renie, il ne le reniera pas, qu'avec lui, il ira à la mort. Pierre se trouve face à face avec une jeune femme, une petite servante. Et il suffit que cette petite servante lui dise « Toi aussi, tu étais là » pour qu'il dise « Non, je ne connais pas cet homme » et qu'il se retire une fois, et une fois encore, et une fois ultime, scellant sa renonciation. Et puis se retournant et voyant le regard du Christ posé sur lui, Nathalie aurait pu aussi renier et dire « Moi, je ne meurs pas. Je me désolidarise. Je me libère. » Mais elle ne l'a pas fait. Cette jeune femme, frêle, de 22 ou 23 ans, a su résister en Christ, là où toute la force humaine de Pierre avait failli. C'était avant la résurrection, avant la victoire de Dieu pour nous et en nous. Et encore, cette jeune femme a dû se demander plus d'une fois si sa mort n'était pas vaine. Mourir pour que cette femme et ses enfants fussent sauvés, oui. Mais quelle absurdité monstrueuse, tragique, si eux sont pris et si elle est fusillée. Souvenez-vous de l'homme le plus grand de l'Écriture sainte, de l'homme le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste. À la fin de sa vie, face à face, lui aussi avec la mort venante, Saint Jean-Baptiste envoie deux de ses disciples demander au Christ « Es-tu celui que nous attendions ?» Ou fallait-il en attendre un autre? Combien de tragédies dans cette phrase, qui semble être une question importante pour lui comme pour nous, mais une question tellement tragique pour lui. Il va mourir. Il va mourir parce qu'il a été le précurseur et le prophète et le baptiseur, le baptiste, du Christ. Et devant la mort qui vient, tout à coup se dresse un doute. Et si je m'étais trompé? Si celui que j'ai annoncé est encore à venir? Si celui auquel j'ai donné mon témoignage au nom de Dieu même n'était pas celui-là? Alors, toutes ces années d'une vie ascétique, surhumaine dans le désert, cette dépossession de soi qui fait que l'Écriture l'appelle une voix qui clame dans le désert, non pas un prophète qui parle au nom de Dieu, mais la voix de Dieu qui retentit par l'intermédiaire d'un homme, si totalement identifié à cette voix, qu'il importe peu qu'il soit Jean ou autre chose. Ce n'est que Dieu qui parle. Et puis maintenant, cette confrontation avec la mort. Si Jésus de Nazareth est vraiment celui-là, alors tout valait la peine. Mais si ce n'est pas lui, alors Dieu même l'a trompé. Et de même que Nathalie, drapée dans ce silence de la nuit et cet isolement, cet esseulement, le prophète ne reçoit aucune réponse. Ou plutôt, il reçoit la réponse du prophète. Allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les paralytiques marchent et les pauvres portent leur témoignage et déclare la bonne nouvelle. Bienheureux est celui qui n'a pas succombé à cause de moi à la tentation. Il doit, dans cette prison où la mort l'attend, il doit faire face à tout son passé, et à tout son présent, et à toute sa mort, seul avec la responsabilité souveraine d'un homme dans toute la grandeur de ce terme. Et Nathalie aussi n'a reçu aucune réponse. Moi, j'aurais pu lui dire maintenant que Zoya a été sauvée, que ses enfants ont maintenant dépassé la cinquantaine. J'aurais pu lui dire d'autres choses encore maintenant. Mais elle ne l'a jamais su. Elle a été fusillée au cœur de la nuit. Mais il y a autre chose. Cela, c'est la croix. Cela, c'est la situation du calvaire et du mont des Oliviers. Mais il y a aussi une résurrection. Si vous voulez, une résurrection à la mesure de notre participation au mystère du Christ, mais aussi à la mesure de notre petitesse humaine. Vous vous souvenez sans doute de ce passage de saint Paul qui nous dit « Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Et par moments nous demandons « Que signifient ces mots? Jusqu'où vont-ils ?» Zoya et ses deux enfants savent une chose pertinemment, qu'ils ne vivent que d'une vie empruntée. Leur vie à eux est morte dans la personne de Nathalie. Sa vie à elle se poursuit dans leur existence terrestre. S'ils vivent, c'est parce qu'elle est morte. Elle a pris sur elle leur mort. Elle leur a donné sa vie. Ils sont vivants d'une vie qui lui appartient entièrement. Nous pouvons la saisir sur un plan humain, peut-être en petit, quelque chose de très grand, quand il s'agit réellement de la tragédie humaine et du mystère du salut. Et nous pouvons saisir aussi là la signification la plus dure, la plus précise, la plus exigeante de l'intercession. Nous intercédons souvent, nous nous adressons à Dieu, lui demandant d'étendre ses miséricordes, sa charité, son pouvoir vers ceux qui en ont besoin. Mais l'intercession est autre chose. Intercéder en latin veut dire faire un pas qui vous place au cœur d'une situation. C'est le pas de celui qui, voyant deux personnes prêtes à se battre, se place entre les deux. Il se fait solidaire des deux. L'image première qui vient à l'esprit, c'est au 9e chapitre du livre de Job, cette parole de l'homme qui a tant souffert et qui dit « Où donc est l'homme qui se placera entre moi et mon juge ? Où est celui qui aura le courage dans cette contestation entre le Dieu vivant et sa misérable créature de faire un pas et de se placer entre les deux pour les séparer et les unir, pour les séparer dans l'opposition qui les fait prisonniers l'un de l'autre et pour les unir dans une liberté qui rétablit une harmonie. Et cet homme, nous le trouvons dans le Christ. Nous trouvons un homme qui était un Dieu. Nous trouvons le Verbe incarné qui fait ce pas, qui se place entre le Christ, entre l'homme déchu et condamné et le Seigneur. L'égal de Dieu et l'égal de l'homme. Totalement solidaire avec Dieu parce qu'il est Dieu et avec l'homme parce qu'il est homme, et prêt à porter les conséquences de l'amour divin dans sa chair humaine. Voilà l'acte d'intercession. Voilà ce que veut dire faire ce pas qui nous porte au cœur d'une situation pour toujours, pour l'éternité. Parce que le Christ, né de la Vierge, le Christ, en même temps, est celui qui est mort sur la croix, celui qui est ressuscité, et celui qui a emporté cette chair humaine au cœur du mystère trinitaire dans l'Ascension. Nous voyons, sur l'exemple de Nathalie, que le Christ est vraiment la voie, c'est la façon dont on vit, c'est l'être même du chrétien. Et nous voyons aussi qu'il n'y a pas d'autre vérité humaine et divine que cela, et que ce n'est que cela qui mène à la vie, mais à une vie tellement débordante, tellement pleine, qu'elle ne remplit pas seulement d'éternité celui qui en est le porteur, mais qu'elle déborde et déferle sur ceux qui l'entourent, établissant sans le salut et la vie éternelle pour eux également, au prix du calvaire, répété indéfiniment de siècle en siècle. C'est la victoire du martyr, c'est la victoire du faible sur le fort, c'est la victoire de ce qui est infiniment vulnérable, l'amour divin ou l'amour humain, sur ce qui semble fort, la haine, qui se brise et qui n'atteint tant. Voilà, je crois, tout ce que je peux me permettre de vous dire ce soir sur ces deux aspects de notre vision et de notre foi au Christ. La résurrection et la croix, unies, inséparables, dépendantes l'une de l'autre, se signifiant mutuellement. Il y aurait beaucoup à dire d'autres aspects du Christ dans notre vie et dans notre expérience. Peut-être aurai-je l'occasion un jour de vous en parler. Mais ces deux aspects-là sont essentiels dans l'expérience et dans la piété et dans la spiritualité orthodoxe. Et c'est pour cela que je les ai détachés pour vous les présenter, parce qu'ils appartiennent totalement à l'histoire et que notre Dieu est le Dieu de l'histoire et que ce qui se passe maintenant dans l'histoire des chrétiens orthodoxes, c'est justement ce mystère de la croix resplendissante de vie éternelle.